dans une petite commune forestière où il n'y a aucun cas de Covid. Comment voulez-vous que la population reçoive ça ?
C'est l'autre écueil du couvre-feu, sa pertinence dans les zones rurales qu'englobent les grandes métropoles françaises. Les 20 millions d'habitants concernés ne sont pas tous des urbains, loin de là. Colère aussi dans le monde de la culture. Le rappeur Akhenaton dénonce sur Europe 1 une société qui place la mort sur un piédestal et laisse la vie par terre. Nous verrons aussi comment résister à la petite déprime que ce couvre-feu risque d'apporter, en plus du traditionnel coup de mou saisonnier de l'automne. Dans ce journal, une Mégane reliftée et électrique au cœur de la nouvelle stratégie de Renault. Pas de débat entre Trump et Biden cette nuit, c'est la télécommande qui faisait office de modérateur pour écouter l'un ou l'autre. Et puis le Téléthon version jeux vidéo, ou comment mobiliser des millions d'euros grâce à des gamers scotchés tout un week-end à leur console.
La culture en souffrance, vous le disiez François, depuis le mois de mars. Et aujourd'hui, le couvre-feu, des milliers d'entrepreneurs inquiets. Entretien dans un instant avec un des plus gros propriétaires de salles de spectacle privées, l'homme d'affaires Marc Ladré de la Charrière, PDG et fondateur du groupe Fimalac, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
36 communes autour de Toulouse, 70 dans la région rouennaise, 94 dans la métropole lilloise. Au total, ce sont 1755 communes qui vont vivre sous couvre-feu à partir de ce soir minuit, y compris le Tartre-Gaudran dans les Yvelines et ses 34 habitants. Passy-sur-Seine en Seine-et-Marne, 47 administrés, ou encore Teuville dans le Val-d'Oise et ses 45 âmes.
Dans la métropole d'Aix-Marseille, où l'on dénonçait déjà une décision venue d'en haut lors de la fermeture des bars en septembre, un nouveau début de fronde gagne les élus. Reportage de Nathalie Chevance.
Amateurisme, improvisation, c'est la maire LR d'Aix-en-Provence, Maryse Joissin, qui a sans doute les mots les plus durs contre le gouvernement, qui d'après elle, ne mesure pas les conséquences locales d'un couvre-feu de 6 semaines.
C'est meurtrier. Nous avons des étudiants qui travaillent dans les restaurants pour arrondir leur fin de mois. Toute une économie de petites gens. Ils ne réalisent pas l'implication de ce que leurs décisions vont avoir sur l'ensemble de la France. On est catastrophés.
Et pour la maire écologiste de Marseille, Michel Rubirola, médecin de profession, le gouvernement prend le problème à l'envers.
Comment peut-on ne pas être en colère quand on pense que cette mesure frappe au mauvais endroit et ne résoudra pas la cause principale, et quoi qu'on en dise, l'abandon de l'hôpital public depuis des années, c'est ça qui est déplorable.
Très remontés aussi les maires des petites communes de la métropole qui n'acceptent pas de subir ce couvre-feu. Georges Christiani, maire de Mimet.
Dans une petite commune forestière, rurale, où il n'y a aucun cas de Covid, comment voulez-vous que la population reçoive ça ? Comment peut-on être aussi peu proche de la réalité des gens et du quotidien ?
Des élus qui aujourd'hui remettent en cause l'existence même de la métropole. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Alors dès mercredi, Emmanuel Macron se faisait très clair. On devrait être rentré chez soi à 21h et pas au-delà. Mais voilà que Roselyne Bachelot réclame des assouplissements. Elle, qui est pourtant ministre, se pose en médiatrice entre le monde de la culture et le gouvernement.
Elle propose dans le journal Le Parisien que 21h puisse être l'heure de la fin des séances et que le ticket de cinéma serve de justificatif.
Roselyne Bachelot qui précise à propos de la solidarité gouvernementale: la ministre de la Culture est respectée et entendue par le Premier ministre et le Président. Je ne me suis jamais trouvé en difficulté.
Et ce matin, au micro Europe 1 de Sébastien Krebs à 6h40, le rappeur Akhenaton a lancé un cri d'alarme pour une industrie culturelle qu'il estime abandonnée.
Je voudrais juste dire aux auditrices et auditeurs qui comprennent aussi des fois nos prises de position et notre situation et qui se mettent à notre place, si du jour au lendemain, depuis mars 2020, on coupe leurs revenus et qu'ils n'ont zéro, et qu'on leur dit, on ne sait pas quand c'est que vous allez reprendre et que les aides ne nous concernent pas, forcément il y a un peu de colère et de questionnement dans nos prises de position. Nos métiers, les salles de spectacle, les producteurs de spectacles privés sont dans des situations extrêmement difficiles. Et ça, c'est la vie. Vous voyez, dans l'équilibre des choses, quand on évoque l'équilibre des choses et l'équilibre des choses dans l'univers, la vie et la mort sont sur une même marche. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une société qui place la vie au même niveau que la mort. La mort est sur un piédestal et la vie est par terre, au sol. C'est une société mortifère qui a peur.
Le rappeur Akhenaton du mythique groupe de rap IAM qui était ce matin invité du 5-7 d'Europe 1. Ce couvre-feu qui sonne comme une sorte de reconfinement, des soirées et des nuits, a de quoi nous plomber le moral, on peut le dire.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Cette restriction semble bien nécessaire, mais pour nous tous, elle est peut-être difficile à encaisser.
Oui, effectivement, pour tous ceux pour qui les sorties de fin de journée sont des moments ressources pour se détendre, pour faire des rencontres. Alors oui, cette perspective du couvre-feu est difficile. C'est le cas de Clément, un Parisien de 25 ans.
Personnellement, j'ai l'impression d'être puni, en fait. Il y a eu les bars, Maintenant, c'est les dîners. Enfin, on doit être limité dans les dîners. Maintenant, il y a un couvre-feu. Donc, il y a une forme de lassitude en moi. En fait, j'en ai marre. Je me dis jusqu'où ça va aller.
Ça se comprend, hein, mais comme sur le plan sanitaire, on n'a pas le choix, explique Stéphanie Pellissolo, psychologue à Paris. Le mieux pour le mental, c'est d'accepter la situation.
Là, on nous interdit juste effectivement de sortir entre 21h et 6h. Ça va, quoi. Sombrer, râler, crier à l'injustice ne fait que rajouter quelque chose de désagréable à une situation qui est déjà désagréable. Donc là, c'est plus avoir aussi une approche un peu plus philosophique, un peu plus sage. Il faut vraiment qu'on reste ouvert.
Ouvert pour inventer de la convivialité autrement. Alors pourquoi pas l'apéro à 17h le week-end, les déjeuners à la place des dîners, les soirées ciné chez les amis avec la nuit sur place. Cette psychologue qui a scruté le moral des Français pendant le confinement est assez optimiste sur leur potentiel créatif.
Anne Le Gall pour Europe 1.
Et s'il fallait se convaincre de la dégradation de la situation, un seul chiffre, celui des contaminations recensées hier en France, 30 600, du jamais vu.
On attend toujours le formulaire pour pouvoir se faire des petites attestations. Attestation de déplacement dérogatoire comme au temps du confinement. Et je viens de vérifier pour vous, ce n'est pas encore sur le site du gouvernement ni celui du ministère de l'Intérieur.
8h06 sur Europe 1. Il est en fonction depuis 3 mois. Le nouveau patron de Renault, Luca De Meo, commence à imprimer sa marque sur le constructeur français.
Oui, alors après l'affaire Carlos Ghosn, après les mauvais résultats aggravés par la crise sanitaire, Renault doit repartir. Aurélien Fleurot, et son patron n'a pas le droit à l'erreur.
Oui, et après avoir relancé la Fiat 500 il y a quelques années, Luca De Meo commence sa nouvelle mission par miser sur une marque connue dans l'histoire de Renault, la Mégane, avec un design futuriste, plutôt sportif, compromis entre la berline et le SUV compact.
Moi je pense qu'il faut que Renault monte d'un cran en termes de centre de gravité de la gamme, et cette voiture va nous permettre de faire les premiers pas dans ce recentrage d'un cran qu'on a en tête pour le futur de Renault. Je pense qu'on est trop concentré sur les petites voitures citadines.
Et cette voiture sera la première Renault issue de la toute nouvelle plateforme électrique du groupe, développée avec Nissan. La production va débuter d'ici un an dans l'usine de Douai. Pas de Made in France, en revanche, pour l'autre modèle dévoilé hier, la Dacia Spring, qui doit incarner le low-cost 100% électrique.
Le concept, il est plutôt simple. Ça va être la voiture électrique la plus accessible du marché. Et je pense que ça va donner la possibilité aux gens d'acheter une voiture électrique au prix où aujourd'hui, ils achètent une voiture à moteur à combustion.
Deux voitures qui constituent les deux premières cartouches tirées par Luca De Meo, dont le plan stratégique global pour Renault est attendu dans les prochaines semaines.
Aurélien Fleurot du service économie d'Europe 1. Le Brexit. Angela Merkel, qui préside le Conseil européen en ce moment, appelle à des concessions des deux côtés. Ça bloque toujours, en particulier sur la question des zones de pêche.
Dans un tout petit instant, le zapping de la présidentielle américaine. Hier soir, choisir sa chaîne de télé, c'était choisir son camp.
Et nous avons aussi jeté un œil sur les jeux vidéo. Un marathon qui s'annonce ce soir pour la bonne cause.
A tout de suite, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Il ne voulait pas débattre en visioconférence. Donald Trump a tout de même défié son adversaire Joe Biden à distance et à la télé. Le républicain et le démocrate étaient en même temps sur deux chaînes différentes cette nuit. Aux États-Unis pour Europe 1, Xavier Yvon a beaucoup zappé.
Deux chaînes, deux ambiances. The Vice President and the People. Joe Biden sur ABC. Un ton compassé, de longues tirades sur l'économie, le climat ou la diplomatie. De la substance, mais pas d'enthousiasme.
From NBC News, President Trump.
Sur NBC, Donald Trump lui fait des étincelles, mais sur le fond, pas grand-chose. Il lutte contre la présentatrice, Savannah Guthrie, qui tente de lui arracher des réponses, notamment sur le flou autour de sa contamination au Covid-19. Vous êtes mignonne, finit par s'agacer le président. Pas sûr que ça l'aide auprès de l'électorat féminin qui lui fait défaut. Donald Trump finit par condamner clairement les suprémacistes blancs, mais il refuse de dénoncer le mouvement complotiste QAnon. Les deux candidats se répondent à distance sur la question des masques. Sur les masques, il y a deux camps, ceux qui en veulent et ceux qui n'en veulent pas. Et je suis avec les deux, explique Donald Trump. Les mots d'un président, ça compte, dit Joe Biden. Et quand un président ne porte pas de masque ou se moque de moi parce que j'en porte un, les gens se disent, ça ne doit pas être si important. Les deux candidats devraient pouvoir confronter leur point de vue dans un vrai tête-à-tête cette fois, lors du dernier débat télévisé, la semaine prochaine, s'il est maintenu. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Et notez que plus de 17 millions d'Américains ont déjà voté. C'est presque 13% de la participation d'il y a 4 ans. On a parfois l'image des amateurs de jeux vidéo comme d'adolescents individualistes enfermés dans leur chambre.
C'est tout le contraire qui va se passer ce week-end avec le The Event, une sorte de téléthon de joueurs. L'année dernière, 3,5 millions d'euros récoltés pour l'Institut Pasteur, Clément Le Saffre. C'est aussi une grosse ambiance.
Moins de 4 000, moins de 3 000, moins de 2 000, moins de L'an dernier, le The Event s'était achevé sur un cri de joie et un record. Jamais un événement caritatif en ligne n'avait collecté autant de dons. Cette année, les gamers se mobilisent pour Amnesty International, mais Adrien Nougaret, alias Zerator, co-créateur de l'événement, ne se fixe pas d'objectif.
Moi, je dis toujours, dès qu'il y a 1 euro, c'est gagné. The Event n'a jamais eu pour but d'être une machine à lever des fonds toujours plus importantes. L'important, c'est qu'on arrive à se rassembler pour une bonne cause. Après, qu'on fasse 3 millions, 1 million, 6 millions, 10 millions, c'est du bonus.
Une quarantaine de streamers seront présents cette année. Ils ont tous passé un test PCR et vont rester confinés dans l'hôtel qui accueille l'événement à Montpellier. Certains joueront aux jeux vidéo, d'autres ont prévu des défis pour inciter les spectateurs à faire un don.
Il y a un question pour un champion qui va être fait samedi à 20h, qui est organisé par un streamer qui s'appelle Étoile. Et en fait, la particularité, c'est qu'il est présenté par Samuel Etienne. Ils ont préparé toute une émission, il y a plusieurs équipes de streamers. Donc ça va être un peu le gros happening de l'événement, je pense que ça va être très marrant à regarder.
Le The Event se terminera dimanche soir après plus de 50 heures de direct sur Twitch. Pour suivre cet événement très bon enfant ou pour faire un don, une seule adresse, www.theevent.fr.
Clément Le Saffre.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.